Certes, l'archéologie est une ethnologie du passé, mais les communautés sur lesquelles les archéologues travaillent ont disparu depuis fort longtemps et il leur est donc particulièrement difficile d'aller au-delà d'hypothèses, notamment en ce qui concerne l'organisation sociale de ces groupes humains. On a ainsi cru voir dans les sociétés néolithiques tout à la fois des communautés égalitaires ou tout au contraire la naissance des organisations sociales, voire l'émergence de chefferies. Aujourd'hui, la paléogénomique apporte des données tout à fait extraordinaires sur ces premières sociétés agropastorales qui vivaient en France, voici 8 millénaires. Pour en parler, Maïté Rivola, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en duplex des studios de Radio France à Bruxelles. Actuellement post-doctorante à l'université de Gand, en Belgique, vous avez récemment copublié dans la revue Nature une passionnante étude, fruit d'une collaboration entre le laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux et l'Institut Max Planck de Leipzig. Celle-ci retrace les filiations génétiques, donc les structures sociales de deux familles qui vécurent il y a quelque 6500 ans dans l'Yonne. Maïté Rivola, pour découvrir la généalogie de cette communauté, tout commence par une fouille ?
Oui, absolument. Dans ce cas précis, c'est la fouille des Noisas à Gurgis. C'est donc un site néolithique, c'est une nécropole qui est composée de 128 tombes qui appartiennent à la culture Cerny, qui est à peu près au début du 5e millénaire avant notre ère. Et ça se trouve donc dans la vallée de l'Yonne, dans le sud du bassin parisien.
Deux mots peut-être sur cette culture de Cerny que personne ne connaît. De quoi s'agit-il? Quelle est sa chronologie? Comment vivent ces gens? Qu'est-ce qu'ils élèvent?
Alors, c'est une culture qui est présente au début du néolithique moyen, c'est-à-dire qu'on est après la phase de la mise en place du néolithique en France. Et les populations qui ont migré depuis le Proche-Orient et qui ont emmené avec elles l'agriculture, l'élevage, la technique de la poterie, la sédentarisation aussi, tout ça s'est installé et les groupes du début du néolithique moyen maîtrisent déjà tous ces éléments, sont établis. Et donc, c'est la période où les cultures se mettent en place, les réseaux se mettent en place et les hiérarchies commencent à apparaître également. Donc on est dans une phase de complexification sociale qui est visible dans les gisements archéologiques.
Oui, c'est une période où il y a des grandes enceintes, il y a des nécropoles monumentales. On est sur les prémices des structures funéraires monumentales de la façade atlantique, qu'on connaît tous. Mais curieusement, dans votre nécropole, ceux des Noisas, ce n'est pas du tout le cas. On serait sur des sortes de petites fosses.
Oui, la culture Cerny, on la connaît surtout pour ses grandes nécropoles monumentales où il y a clairement une volonté de sélectionner les individus enterrés là. Alors qu'à Gurgis, on est face à une nécropole qui est la plus grande de la région, donc avec ses 128 tombes. Et chaque tombe est individuelle, n'a aucune structure importante, visible, monumentale, quelle qu'elle soit. Et donc toutes ces tombes sont les unes à côté des autres de façon a priori non organisée ou non ou sans hiérarchie.
Le fait que ce soit des tombes individuelles doit, j'imagine, faciliter les choses pour vous. Comment reposaient les individus?
Alors à Gurgis, les individus sont tous en position fœtale. Donc ils sont sur leur côté le plus souvent gauche, repliés donc en position de fœtus. Et c'est donc assez courant dans la région pour la période.
Et comment s'organisent les tombes à Gurgis au sein de cette nécropole? Celle-ci est-elle d'ailleurs intégralement fouillée? Quelle est l'organisation donc de la nécropole?
Elle est intégralement fouillée. Toutes les tombes sont organisées de façon à ce qu'elles ne se chevauchent pas ou quasiment pas les unes les autres. C'est-à-dire qu'il y a clairement une connaissance de l'emplacement de chaque tombe par les gens qui ont utilisé l'espace et qui ont donc volontairement choisi de ne pas enterrer les individus les uns sur les autres ou que les tombes ne se recoupent pas. Donc il y a une vraie connaissance du terrain et de l'emplacement des tombes précédentes.
Et qu'en est-il du mobilier? Discerne-t-on par exemple des différences entre les sexes, entre les âges?
La nécropole est malheureusement très très pauvre en mobilier. On a extrêmement peu d'éléments, quasiment pas de lithique, quasiment pas de poterie. On a un pot et un peu plus de parures. Donc les individus sont enterrés avec des bijoux, avec des ornements de différents types, de différentes origines. On n'a pas mis en évidence de façon claire de différence homme-femme. On a une petite différence au niveau de l'âge, c'est-à-dire que les individus enterrés tout jeunes ont des ornements similaires aux adultes, mais il y a une phase dans ce que nous on appellerait aujourd'hui l'adolescence où il y a clairement un manque d'ornements associés aux individus.
Peut-être quelques initiations, pourquoi pas.
Qui pourrait être lié à une phase de rite, une phase sociale qui peut se discuter à différents niveaux.
En tout cas, est-ce que, avant de faire des analyses génétiques, il y a eu, j'imagine, une étude anthropologique ?
Absolument, absolument. Ça a été fait sous la direction de Stéphane Rottier, qui est l'archéologue qui a fouillé le site et qui est anthropologue également. Il y a eu une analyse de tous les squelettes, de tous les individus. Mais c'était limité à un nombre, on a pu déterminer les âges, les sexes des individus, mais ça s'est arrêté là.
Alors pourquoi sélectionner cette nécropole, en particulier pour une étude paléogénomique? Des nécropoles néolithiques, nous en connaissons quantité en France. D'ailleurs, vous en avez étudié d'autres. J'ai vu que vous en aviez étudié une en Normandie.
Absolument. Le cas particulier de Gurgis, ça reste sa taille. Dès la fouille, dès le moment où Stéphane Rottier a commencé la phase de terrain, par ces dispositions des tombes dont on a déjà parlé, c'était évident que les individus avaient une connaissance de qui était enterré là et où. Et donc il y avait quelque chose d'assez clair sur le fait que cette nécropole a été utilisée par des gens qui étaient liés entre eux d'une façon ou d'une autre. Alors est-ce que c'était que social, est-ce que c'était biologique? On n'avait pas vraiment de réponse à ce moment-là, mais du coup c'était des choses auxquelles la génomique pouvait répondre. Un autre paramètre qui sera important de rediscuter plus tard, c'est que les dates radiocarbone qui ont été obtenues sur cette nécropole couvrent un millier d'années, quasiment. Donc au moment des premières études, on était face à une nécropole où les gens visiblement connaissaient très bien l'emplacement des tombes et donc qui était où, et en même temps qui semblait couvrir une période de temps extrêmement longue. Et donc c'était pas cohérent, il y avait quelque chose qui collait pas bien.
Oui, 1000 ans, c'est absolument énorme. Ouais. Maïté Rivola, comment échantillonnez-vous le matériel génétique qui est bien sûr particulièrement fragile? Les dents, par exemple, est un bon élément?
Les dents sont un bon élément. C'est là-dessus qu'on a commencé à travailler sur Gurgis en général en paléogénomique. Mais il y a quelques années, en 2014, il a été mis en évidence par des collègues que c'est dans l'os pétreux, qui est donc un os qui fait partie du crâne, ouais, qui est juste derrière l'oreille, qu'on peut sentir si on touche juste derrière son oreille, une partie dure, et qui en fait renferme l'oreille interne. Et donc cet os est extrêmement dense, et c'est l'os le plus dense de tout le squelette humain. Et c'est là où on a pu mettre en évidence que l'ADN est le mieux préservé.
Alors il y a bien sûr plusieurs types d'ADN. On connaît bien sûr par exemple l'ADN mitochondrial lié aux femmes. Vous avez travaillé sur lequel?
Alors on a commencé tout ce travail génomique sur Gurgis, on l'a commencé il y a déjà un peu longtemps, en 2012, qui à l'échelle de la discipline, c'est vieux. À cette époque, on avait pu travailler que sur l'ADN mitochondrial. Donc comme vous venez de le dire, c'est un ADN qui est transmis uniquement de la mère à ses enfants et donc nous permet de tracer les lignées maternelles. Et puis au fur et à mesure de l'évolution technique et technologique de la discipline, on a pu travailler sur l'ensemble du génome nucléaire, qui est donc tout le génome qui est compris dans les chromosomes et qui est donc transmis par les deux parents et donc par les parents des parents, etc. Donc c'est le génome qui crée une mosaïque de toutes nos ancestralités qui permet de mettre en évidence tout notre potentiel génomique, mais également ici en particulier les liens de parenté entre individus.
Sur les 128 individus, combien de profils génétiques avez-vous réussi à obtenir ?
Alors, sur les 128 individus, on a pu en analyser 110, et de ces 110, on a obtenu 94 profils génétiques exploitables. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire dans le contexte de l'ADN ancien, parce que on avait une extraordinaire conservation de l'ADN sur le site, malgré un état de l'os, un état macroscopique de l'os assez mauvais, assez terrible. Donc, on a clairement vu une non-corrélation entre la conservation de l'os et de l'ADN.
Et pourquoi les autres n'ont pas marché?
C'est une bonne question. Alors, il y en a qu'on n'a même pas pu échantillonner parce que l'os était tellement abîmé que c'était impossible. Et puis, les quelques-uns qui n'ont pas marché, ben, c'est juste que l'ADN, il a une conservation très différentielle et que même sur un même site, même avec des gens enterrés à la même période et dans les mêmes conditions, on peut avoir une préservation complètement différentielle d'une tombe à l'autre. Donc, on est face là au désagrément de notre discipline.
Maïté Rivola, ce que vous mettez en évidence, et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est la présence de deux pédigrés. Vous parlez de pédigrés, on pourrait donc dire de deux familles.
Alors, c'est un peu délicat, je dirais, parce que famille, c'est déjà un mot qui a une connotation sociale. Or, on ne sait pas comment ces gens se considéraient les uns les autres. Et on a choisi le mot pédigré qui, en français, sonne particulièrement mal, mais parce qu'on a voulu vraiment donner une connotation neutre à ce mot. Donc, je préfère utiliser le mot arbre en français ou lignée, Mais famille, c'est déjà une interprétation qu'on est embêté à donner, en fait.
Vous direz arbre et pédigré, je dirais famille, vu que
voilà
je suis archéologue. C'est donc des arborescences phylogénétiques d'individus que vous mettez en évidence. Comment se présente le premier groupe, là, on va dire le premier pédigré, la première famille?
Alors, c'est le point d'orgue de cette étude, en quelque sorte. C'est une famille, c'est un arbre, qui regroupe 63 individus, tous apparentés les uns aux autres. Donc, il y a 20 femmes et 44 hommes, et qui s'étendent sur 7 générations. Ce qui est totalement inédit dans l'histoire de l'ADN ancien, et en général. Et surtout pour une période aussi ancienne.
Alors, 7 générations, ça fait pas 1000 ans. Donc,
non.
Les dates carbone 14 n'étaient pas bonnes.
Absolument.
L'autre famille semble plus réduite?
L'autre est plus petite. En effet, on a 12 individus qui sont apparentés, donc 7 femmes et 5 hommes, qui sont, eux, s'étalent sur 5 générations quand même, et qui font donc le deuxième petit bloc de ce site. Et puis ensuite, il reste 18 individus qui, eux, ne sont pas apparentés de façon proche à ces deux grosses lignées, ces deux gros arbres, mais qui ont des apparentements entre eux. Donc on a quelques paires qui restent, et puis un certain nombre d'individus non apparentés du tout.
Alors, ces 18 individus, c'est quoi? 11 n'auraient aucun lien de parenté avec ces lignées, donc ils sont totalement extérieurs.
Oui, et on a dans ce sens en particulier 7 femmes adultes qui sont complètement extérieures au groupe, en effet.
Et 7 seraient connectées, c'est ça? À un degré plus ou moins éloigné?
Ouais, les autres, on a des pères, donc il y a plusieurs petites fratries, on a plusieurs pères de frères et sœurs. Certains ont des liens éloignés de parenté avec notamment le grand arbre, au quatrième degré ou troisième degré.
Alors, pour résumer, dans le premier groupe, on a 63 individus, 20 femmes et 44 hommes. Dans le deuxième, 12 individus, 7 femmes et 5 hommes. Une évidence, il devrait y avoir environ un homme pour une femme, du moins dans une population naturelle. Et bien entendu, ce n'est pas le cas.
En effet, à la naissance, de façon biologique attendue, on a un ratio équivalent entre hommes et femmes à la naissance. Et on l'observe ici chez nos individus immatures, chez les enfants. Donc on a ce ratio, il est équilibré. Chez les adultes, c'est pas le cas. Donc il y a deux choses différentes ici. C'est-à-dire que d'une part, dans les individus qui appartiennent à la lignée, qui sont descendants de la lignée principale, on a un nombre beaucoup plus important d'hommes que de femmes. Et en plus, si on considère l'ensemble de la population, on a plus d'hommes que de femmes. Donc il y a deux choses différentes. Il y a potentiellement un biais et c'est possible qu'il y ait des femmes qui ne soient pas enterrées là pour des raisons qui nous échappent.
Ça ne vient pas donc des individus que vous n'auriez pas pu analyser? Vous avez pris
non,
ça en compte?
Ce qu'on observe dans la structuration générale de ces deux arbres, c'est qu'on a un système patrilinéaire. C'est-à-dire que les lignées se voient surtout quasi exclusivement via les hommes. Et les femmes qui ont grandi, les femmes qui seraient devenues adultes, on ne les a pas. Donc on a des grosses fratries d'hommes, mais on n'a pas les sœurs. On n'a pas ces femmes issues de cette lignée principale. Et en revanche, les femmes qui sont là, qu'on a pu raccorder à ce grand arbre, ce sont les mères des enfants qui sont nés là. Mais ces femmes-là, elles viennent de l'extérieur. Donc on a un système qui semble très fortement patrilocal. Les hommes structurent le groupe et les femmes viennent de l'extérieur. Et à contrario, du coup, celles qui seraient nées ici et qui ont grandi sont parties. Parce qu'elles, on ne les a pas. Donc, de toute façon, très très claire, on a cette structuration patrilocale où on a une exogamie féminine importante. Et donc, en plus de ça, les mères qui nous manquent, ce ne sont pas les femmes adultes qui sont non apparentées, parce que ces liens-là, on ne les observe pas. Donc, les femmes isolées, elles n'ont pas de lien d'apparentement avec personne. Elles n'ont pas d'enfants présents sur le site. Donc, c'est possible qu'elles soient, si on suit un système donc patrilocal avec une exogamie féminine, c'est totalement possible que ces femmes-là soient venues pour être avec certains des hommes de la lignée principale, mais on n'a pas les enfants qui nous permettent à nous de l'observer d'un point de vue génétique. Donc, toutes les hypothèses sont possibles.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Maïté Rivel, reprenons tout ce que vous avez dit qui est absolument capital. La découverte, donc, porte sur les filiations. Nous voici tout d'abord sur un cas exemplaire de patrilocalité.
Oui, exactement. C'est un système de résidence où les hommes restent sur place, structurent le groupe, et les femmes se déplacent d'un groupe à l'autre. Et donc, ce qu'on observe, nous, à Gurgi, c'est que les femmes qui sont mères des enfants présents sont des femmes qui viennent d'autres groupes, qui sont génétiquement pas apparentées à la lignée principale de notre groupe, et que les femmes qui auraient grandi, qui seraient devenues adultes, issues de notre lignée principale, sont pas là, sont absentes. donc probablement partie dans les groupes voisins.
Est-ce que ce n'était pas déjà un cas reconnu par l'équipe de Toulouse, je pense, donc à Éric Trubézy, qui avait étudié aussi quelque chose d'assez similaire il y a quelque temps ?
C'est une étude qui est déjà ancienne, donc faites référence à une étude de Marie Lacan de 2011. Et à l'époque, on avait uniquement les lignées donc maternelles et paternelles, donc du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial. Et ça nous donnait des indications de structuration qui pourrait ressembler à celle qu'on a à Gurgis, mais on n'a pas des évidences aussi claires dans le sens où on n'avait pas les liens de parenté directs et définitifs sur qui est apparenté à qui et comment. Donc c'était des hypothèses qui ont été proposées effectivement à cette période, et c'est sur des sites néolithiques un peu plus récents encore, donc autour de 3000 avant notre ère.
Reprenons donc Gurgis. Curieusement, il n'y a pas de femme adulte dans cette lignée principale. Qu'est-ce que cela signifie ?
On en a une en fait, on a une femme adulte qui a des enfants et qui a donc un partenaire qui, lui, est extérieur au groupe. Et on a deux autres femmes adultes qui, elles, sont adultes mais qui n'ont pas d'enfants. Donc soit elles sont pas encore parties, c'est possible, soit je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ben, ça signifie qu'on a un système social qui a l'air clairement établi sur ce système de réseau où les femmes se déplacent et les hommes restent en place. Et ce qui est important de noter, c'est que là, on a un site, on observe ces informations à l'échelle d'une communauté, mais ce qu'on observe, c'est que ces femmes qui viennent de l'extérieur à Gurgis, toutes ces mères qui sont là, elles ne sont pas apparentées entre elles ou de façon extrêmement éloignée. Ça veut dire que c'est pas un système d'échange, un système de réseau entre deux groupes, entre deux communautés, où il y aurait des échanges exclusifs, mais qu'on est dans un système qui est beaucoup plus vaste, sur un réseau régional probablement.
Ça veut dire que donc toutes les femmes arrivant appartiennent à différents groupes, ouais, et ne viennent pas forcément d'un simple et unique village voisin, c'est ça ?
Voilà, elles sont ni sœurs, ni cousines, ni elles sont non apparentées. Donc oui, il y a un système large d'échanges qui nous montre que ce qu'on observe nous à Gurgis est probablement vrai, bien au-delà de cette communauté de Gurgis, en fait, sur un système régional.
Alors bien sûr, on pourrait bien entendu parler de la mise en place de réseaux d'échanges, vous en parliez il y a une seconde. Peut-être faut-il mieux évoquer une notion d'ethnologie, une notion ethnologique, le jeu de l'alliance et de la parenté, chaque famille devenant liée sur des distances.
Ouais, c'est tout à fait plausible. Après, c'est difficile à vérifier dans ce cas précis, puisqu'on parle d'une communauté qui a 6500 ans d'âge, donc c'est compliqué à prouver ou à explorer, mais c'est tout à fait envisageable. Et ce qu'il faudrait imaginer maintenant, c'est de pouvoir obtenir l'ADN des communautés voisines, des sites qu'on connaît dans la région, et de voir qu'est-ce qu'on observe en termes de relations entre ces différents groupes, et éventuellement qu'est-ce qu'on observe d'un point de vue matériel. Mais là, on a un problème majeur qui est la très faible quantité de matériel disponible à Gurgis.
Et puis peut-être, je réfléchis à haute voix, travailler avec des anthropologues et des ethnologues.
Absolument.
Pour
Absolument.
Proposer des modèles, voir qu'est-ce qui peut se passer dans certaines régions à travers le monde et ce qui serait acceptable donc pour votre site il y a 8000 ans.
Absolument, c'est tout à fait à faire, et je pense que ce type d'étude sera de plus en plus intégrative et interdisciplinaire dans le futur. On aura besoin d'intégrer ces différentes connaissances. Maintenant, on n'aura probablement jamais de réponse fixe non plus. Ce qu'on observe à Gurgis, c'est en quelque sorte le résultat d'un événement social ou de règles sociales qui ont donné ce résultat génétique. Mais il y a probablement, même très probablement, plusieurs explications, plusieurs types de systèmes qui peuvent avoir donné les mêmes signatures. Et ça, nous, on n'aura jamais les moyens de différencier ces différents systèmes.
Maïté Rivola, cette exogamie féminine marche visiblement dans les deux sens pour la communauté étudiée, mais aussi donc celle que nous ne connaissons pas. On peut donc imaginer que, à cette époque, toute cette culture-là vivait selon un régime exogamique avec de la patrilocalité.
Ça semble extrêmement plausible, oui. On a un site. On a une communauté, les données génétiques semblent nous dire que ce fonctionnement-là, il est généralisable, mais on n'est pas à l'abri de différentes cultures ou communautés, disons plutôt, qui pourraient cohabiter en même temps dans des mêmes régions et qui auraient des systèmes d'alliances qui ne sont pas partagés par tout le monde. Donc il pourrait y avoir des tas de hiérarchisations locales qui pourraient rendre un tableau, disons, beaucoup plus complexe que ça.
Avez-vous croisé génétique et analyse isotopique ? Les résultats sont souvent excellents, par exemple avec les isotopes du strontium qui permet de connaître le territoire de l'individu.
Oui, alors on a effectivement appliqué les analyses du strontium sur quasiment tous nos individus adultes en tout cas. Et ce qu'on observe, c'est qu'en effet, les femmes qui viennent de l'extérieur d'un point de vue génétique ont aussi des signatures de strontium qui sont non locales. Alors le petit problème dans le contexte local, c'est que on n'est pas en mesure aujourd'hui de déterminer d'où elles viennent. Le sol géologique qui permet en quelque sorte de définir ce signal isotopique est trop similaire dans la région pour nous permettre de définir clairement d'où elles peuvent venir. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une différence entre ces femmes exogènes et la lignée principale, des gens qui sont issus de cette lignée principale.
Est-ce que vous auriez pu découvrir des demi-frères, des demi-sœurs, une sorte de polygamie, peut-être percevoir dans cette société donc la présence de monogamie ?
Les données génétiques nous permettent dans l'absolu d'observer des demi-frères, des demi-sœurs. C'est des liens de parenté qui correspondent à un deuxième degré, tel même que des grands-parents, petits-enfants ou oncles, tantes, neveux, nièces. Or, on n'en a pas du tout à Gurgi. Donc, il n'y a pas de demi-frères ou de demi-sœurs, même pas un seul exemple. Donc, ça montre deux choses. D'une, il n'y a pas, en tout cas de façon évidente, pas de polygamie et pas non plus de ce qu'on appelle de serial monogamy, donc entre en quelque sorte de remariage si le partenaire décède, et donc d'enfants nés d'une seconde union. Ceci dit, on a accès à une nécropole, mais il y a peut-être des règles sociales qui sur l'usage de cette nécropole que l'on ne maîtrise pas. Et c'est pas impossible que, par exemple, des enfants issus d'une deuxième union n'aient pas le droit d'être enterrés là. Et dans ce cas-là, on passerait aussi à côté de tout un aspect social qui nous échapperait. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en effet, il n'y a pas du tout de demi-frères, de demi-sœurs à Gurgi. Donc, a priori, un système monogamique assez strict.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez retrouvé le créateur du groupe, ou du moins le fondateur de la nécropole. On va dire l'ancêtre. Vous le dénommez le patriarche, à la base donc de cette grande lignée et de ces 7 générations.
Oui, alors patriarche, je pense pas que nous ayons utilisé ce mot directement, mais ancêtre principal, oui, en effet. Alors c'est un petit peu l'anecdote amusante de ce site. Cet individu qui est donc le grand-père de toute la lignée la plus grande des 63 individus, c'est un homme donc, et c'est le seul qui est enterré en dépôt secondaire, donc en anthropologie funéraire, ça veut dire que c'est un individu qui a d'abord bénéficié d'une sépulture, soit d'une exposition, on ne sait pas vraiment, de son corps ailleurs, et qui a été, dans un deuxième temps, soit réinhumé, soit récupéré, et réenterré ici, à Gurgi, dans la tombe d'un autre individu, d'une femme, pour laquelle on n'a pas d'ADN.
C'est dommage.
C'est très frustrant.
Oui.
et donc on a juste un amas d'os pour ce grand-père. Or, c'est le seul exemple sur l'échelle de toute la nécropole dans ce cas précis. Et ça nous pousse, nous, à proposer l'idée que du coup, c'est l'importance d'avoir cet ancêtre-là dont la nécropole était fondamentale et qu'il fallait l'avoir pour peut-être en quelque sorte fonder la nouvelle nécropole. Et donc l'emmener d'où qu'il l'ait pris, l'emmener et le réinstaller là avec tous les descendants à venir.
Et il était le plus vieux et seul, sans femme, bien sûr avec des enfants, mais sans femme.
Alors on n'a pas sa compagne, mais c'est peut-être la dame avec qui il est enterré, ça on sait pas, vu qu'on n'a pas son ADN, elle pourrait être la mère du seul fils qu'on a de lui. On sait pas s'il est vieux ou pas, on n'a pas son âge, parce que comme on a que ses os longs, on n'a pas été en mesure de déterminer son âge, mais peut-être qu'il est pas vieux, peut-être qu'il est juste le père, mais il a pu mourir jeune, en fait, on n'a pas cette information.
Une chose est certaine, cette petite communauté exogame et patrilocale se portait bien. On y voit par exemple 6 frères, la démographie est donc très forte, c'est d'ailleurs ce que l'on pense généralement pour le néolithique, une sorte de boom économique, mais aussi boom démographique.
Enfin, alors en effet, à Gurgi, on observe un état de santé qui a l'air très bon. On a plusieurs fratries de 4, 5, 6 frères. Frères, ça veut dire qu'il y a sûrement des sœurs qui sont pas là, mais qui ont dû naître à un moment. Et en plus de ça, probablement des enfants qui sont quand même morts en bas âge, parce qu'on est quand même à la préhistoire, il y a quand même une mortalité infantile importante. Donc ça nous amènerait, si on fait des calculs statistiques un peu froids comme ça, une douzaine d'enfants pour un seul couple, ce qui semble surprenant et très important pour la période. Alors quand on parle de boom démographique, c'est un peu différent. Là, c'est des notions qu'on utilise quand on parle d'émigration au néolithique. On est sur une phase de transition où on acquiert l'agriculture, on acquiert l'élevage et on modifie la façon de contrôler son environnement, de produire sa subsistance. Et là, on observe une croissance démographique importante. Ici, à Gurgis, on est déjà à une période plus tardive du néolithique où tout ça s'est déjà produit et on est sur des phases où les gens sont stabilisés, sont stables. Et donc, ça a l'air d'être un état de santé stable et propice dans la région.
En tout cas, avez-vous tenté de comparer vos individus avec d'autres populations ayant vécu dans la France néolithique ?
Oui, alors on a effectivement publié, il y a 2 ans maintenant, une étude sur un site contemporain, ou à peu près contemporain, peut-être un peu plus récent, en Normandie, qui est aussi dans l'extension de la culture Cerny, mais qui, là en l'occurrence, est un site avec des grands monuments funéraires, comme on observe ailleurs dans le bassin parisien. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes monuments, il y a aussi différences d'ordre structurel, mais le site fonctionne totalement différemment. C'est donc le site de Fleury-sur-Orne, et on n'a que des hommes enterrés dans ces grands monuments. Les monuments peuvent être immenses, jusqu'à 300 mètres de long, et avec une tombe, ou certaines fois deux, dans chacun de ces monuments. Donc c'est complètement une structure différente de ce qu'on peut observer à Gurgis. Et ce qu'on observe dans ce site de Fleury-sur-Orne, c'est un système où, dans le cas des monuments ou des tombes doubles, les hommes sont enterrés entre père et fils. Donc comme si on avait une sorte de système de dynastie ou de chefferie, en quelque sorte, où chaque monument correspond à une lignée différente, parce qu'on n'a pas de lien entre les monuments. Pas de lien de parenté entre les monuments, mais seulement à l'intérieur des monuments. Donc comme si chaque monument correspondait à une lignée spécifique de différentes lignées qui pourraient utiliser ce site-là dans la région et qui utiliseraient ce site comme un site exclusivement réservé à des élites, chaque lignée ayant son propre monument. Donc à Gurgis, on est dans un système qui n'a absolument rien à voir. On est sur un groupe où on n'a aucune évidence de hiérarchie ou de sélection, et qui semble être la population normale qui sont enterrées là.
Maïté Rivola, merci beaucoup. Bien sûr, ce qu'il faut désormais, c'est chercher parmi d'autres questionnements, d'essayer de retrouver les femmes, les tantes qui quittèrent ce village il y a 6500 ans. Carbone 14 était réalisé par Alexandra Malka, la technique Raphaël Rousseau, Angélique Boin et Pierre Benazet, correspondant de Radio France à Bruxelles, et bien sûr Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.